VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 20 juin 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, la détention de 5 militants pro-démocratie prolongée de 15 jours.
Au Mali, les autorités reconnaissent l'implication de militaires dans l'affaire des fosses communes découvertes dans le centre du pays.
Rencontre aujourd'hui à Addis Abeba entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son grand rival, le chef rebelle Riek Machar.
Appel à Abidjan des spécialistes africains pour une campagne de vaccination contre la méningite cérébro-spinale.
Ici à Washington, le président Donald Trump reste ferme sur sa position malgré le tollé sur les séparations d'enfants migrants.
Et ne manquez pas notre journal de la Coupe du Monde pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, mauvaise nouvelle pour le mouvement Filimbi. La détention provisoire de 5 militants pro-démocratie, poursuivis pour outrage à la personne du chef de l'État Joseph Kabila, a été prolongée de 15 jours. Des détails avec Eddy Issango.
Le tribunal d'Ngaliema a statué pour prolonger de 15 jours leur détention. L'audience a eu lieu devant la chambre du conseil à la prison de Makala, le plus grand centre pénitentiaire de Kinshasa où ils sont détenus depuis le 9 juin. La cour a rendu un jugement en faveur du parquet alors que la défense a plaidé pour une libération provisoire, dénonçant par ailleurs une détention irrégulière. Les 5 militants ont été présentés au parquet après plus de 5 mois de détention sans charge, ni assistance judiciaire, ni droit de visite dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Leur leader, Carbone Beni, âgé d'une trentaine d'années, avait été hospitalisé récemment. Ses proches affirment qu'ils ont reçu des mauvais traitements pendant leur détention. Carbone Beni, Mino Boponi, Cédric Kalonji, Grace Chunza et Palmer Kabeya ont été arrêtés fin décembre. Ils mobilisaient pour la marche des catholiques du 31 décembre pour demander au président Kabila de quitter les pouvoirs.
Et ajoutons pour rappel que c'est aujourd'hui que le président Kabila doit prononcer une allocution très attendue sur son avenir politique devant le Parlement réuni en session extraordinaire. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
Au Mali, les autorités ont reconnu hier l'implication de militaires dans des violations graves ayant occasionné mort d'hommes à Nantaka et Kobaka. Après la découverte de fosses communes dans le centre du pays, elles se disent prêtes à assumer les conséquences. Les corps de 25 personnes ont été retrouvés ces derniers jours dans la région de Mopti, une semaine après une série d'arrestations par l'armée malienne.
Le ministre de la Défense, Tiena Koulibaly, a instruit au procureur militaire d'ouvrir une enquête judiciaire et réitéré sa détermination et sa ferme volonté de lutter contre l'impunité. Les résultats de cette enquête seront examinés avec toutes les conséquences que nous assumerons, a affirmé dans la soirée le président malien Ibrahim Boubacar Keïta en recevant à Bamako des membres d'associations de défense des droits de l'homme.
Toujours au Mali, une femme se jette dans la course à la présidence. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est candidat à sa propre succession mais fera face à de nombreux concurrents d'une opposition dispersée. Kadia Traoré a joint Madame Kanté Diénaba Ndiaye, candidate déclarée à la présidence du Mali.
Je me suis présentée parce que je ne vois pas de différence entre homme et femme. Je ne vois pas trop de différence. L'homme peut gérer bien, la femme peut aussi bien gérer. C'est pour cela que je voudrais quand même mettre un peu de changement pour dire aux hommes que la femme aussi peut mieux faire. C'est quand même la décision de Dieu. Je ne vois pas de difficultés. Je ne vois pas du tout de difficultés. C'est quand même un pays qui sait déjà que tout ce que l'homme peut faire, la femme peut faire plus mieux. Donc c'est pour cela que je voudrais quand même montrer à tout le monde que j'ai décidé. J'ai confiance à moi et puis j'ai confiance à toutes les femmes.
Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau dans la gestion politique malienne?
La paix entre les hommes politiques, la paix. Nous sommes des Maliens, qu'on se donne d'abord la main. On se donne la main, je viens avec la paix. Parce que sans la paix, il n'y a rien. Moi, en tant que femme, entre les hommes politiques, je veux qu'on se donne la main, nous tous, pour venir d'abord avec la paix.
À Abidjan, des spécialistes africains ont appelé hier à une campagne de vaccination contre la méningite cérébro-spinale pour sauver des dizaines de milliers de personnes chaque année. Le point avec Morgane Guiriec.
En dehors des deux jeunes hommes tués, Bakary Koudjabi et Ismaïl Abba, 6 civils et 16 policiers ont été blessés lors des incidents. Le président Adama Barrow a vivement dénoncé la violence policière sur son compte Twitter, tout en rassurant les victimes du soutien total du gouvernement.
Les experts de 10 pays africains, réunis à Abidjan, sous l'égide du groupe pharmaceutique français Sanofi, ont plaidé pour une campagne nationale gratuite de vaccination contre la méningite. Pour le docteur Elia Aka Gilberner du groupe Sanofi, aujourd'hui on parle des fièvres Ebola et Lassa, mais la méningite, qui peut sévir de façon virulente, a provoqué des épidémies au Niger et au Nigeria en 2017. Le professeur sénégalais Amadou Lamine Fall a salué l'efficacité des vaccins, mais plaidé pour une subvention étatique face à leurs coûts exorbitants. 26 pays composent la ceinture africaine de la méningite, s'étendant du Sénégal à l'Éthiopie, où vivent 450 millions de personnes. Selon l'OMS, rien que cette année, la maladie a tué 849 personnes sur 11 581 cas déclarés dans cette zone.
Le président sud-soudanais Salva Kiir et son grand rival, le chef rebelle Riek Machar, doivent se rencontrer aujourd'hui à Addis Abeba pour la première fois en 2 ans. Ils vont tenter à nouveau de ramener la paix dans leur pays ravagé par la guerre civile qui, depuis 2013, a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis se sont retirés mardi du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en accusant l'institution basée à Genève d'hypocrisie et de parti pris contre Israël. Une décision aussitôt dénoncée par des organisations de défense des droits fondamentaux. Washington a dit qu'un simple regard sur les États membres du Conseil montre un manque de respect épouvantable pour les droits les plus fondamentaux, citant des abus au Venezuela, en Chine, à Cuba et en République démocratique du Congo. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Nous prenons cette mesure parce que notre engagement ne nous permet pas de continuer à faire partie d'une organisation hypocrite et servant ses propres intérêts qui fait des droits de l'homme un sujet de moquerie, a lancé devant la presse à Washington l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, aux côtés du secrétaire d'État Mike Pompeo. La diplomate américaine a également accusé le Conseil de partialité chronique à l'égard d'Israël. Cette annonce intervient au lendemain de vives critiques du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, contre ce qu'il a appelé la politique inadmissible et cruelle des autorités américaines de séparation d'enfants de leurs parents sans papier à la frontière mexicaine. Mais Nikki Haley et Mike Pompeo ont assuré que la décision était liée à l'échec des tentatives de réforme du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Si l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, s'est réjoui de ce retrait et a remercié les États-Unis pour leur refus de la haine aveugle à l'égard d'Israël dans les institutions internationales, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit qu'il aurait préféré que les États-Unis restent au Conseil des droits de l'homme, a déclaré son porte-parole. Quant à l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, elle a vivement critiqué ce nouveau repli. Salil Chetty, secrétaire général d'Amnesty International, a appelé les États-Unis à revenir sur leur décision, tout en admettant que le Conseil a ses défauts.
À Washington, le président Donald Trump a souligné que pour poursuivre les migrants sans papier, on doit les séparer des enfants. Dans un discours hier devant une association d'entrepreneurs américains, M. Trump est resté ferme sur sa position, malgré le tollé que continue de susciter la politique de tolérance zéro à la base de ses séparations à la frontière avec le Mexique. Il a rencontré hier sa majorité républicaine à la Chambre des représentants, promettant de soutenir toute proposition qui règle la crise à la frontière et le problème des séparations de familles en permettant la rétention et l'expulsion des familles sans les séparer, à condition que cette proposition inclue ses autres exigences, construire le mur à la frontière mexicaine et limiter l'immigration légale, c'est ce qu'a dit son porte-parole Raj Shah.
L'armée israélienne a annoncé avoir frappé dans la nuit de mardi à mercredi environ 25 cibles dans la bande de Gaza en riposte à des tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien. Différents acteurs internationaux s'alarment de la montée des tensions et de la dégradation de la situation humanitaire et économique dans le territoire et mettent en garde contre le risque d'une nouvelle guerre.
La bourse de New York, ébranlée par l'exacerbation des rivalités commerciales entre la Chine et les États-Unis, a terminé dans le rouge mardi, son indice vedette finissant en baisse pour la 6e séance de suite.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Place au sport maintenant avec le journal de la Coupe et Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous, bienvenue au Journal du Mondial. L'Afrique tient enfin sa première victoire dans le Mondial 2018. Ce sont les Lions de la Teranga qui ont sauvé l'honneur. Victoire du Sénégal 2-1 devant la Pologne de Robert Lewandowski. Dans un premier acte plus fermé, les Lions se sont montrés beaucoup plus tranchants sur leurs attaques rapides. Alors que les Aigles Blancs ont eu beaucoup de mal à trouver des solutions dans le camp sénégalais. Après plusieurs situations intéressantes, la bande Aliou Cissé finissait par trouver la faille sur une frappe de Ganagay, déviée par Sionek dans son propre but, 1-0 à la 38e, même score à la mi-temps. À la reprise, Mba Niang a permis au Sénégal de mener 2-0 à la 60e. Krychowiak a réduit le score en fin de match, 86e, score final 2-1. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonjour. La qualité individuelle des joueurs sénégalais est connue en Afrique et reconnue dans les championnats européens les plus relevés, tant ils apportent par leur explosivité, leur vélocité et leur puissance athlétique une plus-value incontestable aux clubs qui ont le bonheur de les recruter. Hier, c'était le CNF de la génération de Moussa Ndao et Jules Bokandé dans les années 80-90, puis vinrent les mondialistes du début des années 2000, dont le trio infernal Diouf Camara Fadiga permet aux Lions de la Teranga de tutoyer 12 ans après le record de leurs aînés et homonymes camerounais qu'ils rejoignaient dans le quota des meilleurs représentants africains en Coupe du Monde lors de Corée-Japon 2002. Le cru actuel, généré par une politique judicieuse de formation permanente, a pris forme depuis les Jeux Olympiques de Londres en 2012 et il met à la disposition du héros retraité, le sélectionneur actuel Alioune Cissé, une pléthore de jeunes joueurs talentueux et décomplexés auxquels il a demandé d'écrire leur propre histoire. Amené par le vice-champion d'Europe Sadio Mané, ils ont eu en Suisse avec eux l'assise collective et le culot nécessaire pour aller loin. Leur victoire ce mardi contre la Pologne de Robert Lewandowski confirme cette ambition et redonne des couleurs à une Afrique juste la défaite. Un bon exemple à répéter et à imiter pour les autres représentants du continent, car à ce niveau, rien n'est encore perdu. À bientôt.
Les Lions de la Teranga prennent la première place du groupe H aux côtés du Japon, vainqueur de la Colombie sur le même score de 2-1. Le mondial qui bat son plein à Dakar, les affaires sont aussi florissantes grâce à la Coupe du Monde. Drapeau et autres articles liés à l'équipe sénégalaise se vendent comme des petits pains. Notre envoyé spécial à Dakar, Abdourahmane Dia, promène son micro au marché de Sandaga. Écoutons les réactions de quelques commerçants qui se frottent les mains.
Nous vendons quand même pas mal de maillots. Vous savez, nous exposons nos articles et tout est en vert, jaune, rouge, en espérant une victoire et nous pensons que nous pouvons gagner.
Ah oui, les maillots se vendent très bien. Surtout les maillots et les casquettes. Et si l'équipe gagne, les affaires iront mieux pour nous. Plus l'équipe fait de bons résultats, et mieux ça ira pour nous. Espérons que l'équipe ne perdra pas, car si elle gagne, ce sera tellement bien qu'on se fera plus d'argent que pendant les fêtes de Tabaski.
Alors que le Sénégal a donné de la joie à tout un continent grâce à sa victoire, l'Égypte, elle, a complètement sombré lors de sa deuxième sortie contre le pays hôte, la Russie. Les pharaons se sont inclinés 1-3, synonyme de qualification pour les Russes, en huitième de finale. Sous pression de son public, la sélection russe s'est délivrée à la 47e grâce à une maladresse d'Ahmed Fatih, défenseur égyptien, qui a marqué contre son camp en tentant d'arrêter une attaque. Il a juste fallu 3 minutes après pour que les Russes, désormais plus décontractés, inscrivent leur deuxième but par Cheryshev à la 59e. À la 62e minute, Artem Ziouba amortit un ballon de la poitrine dans la surface de réparation, efface son vis-à-vis et inscrit le troisième but russe. Les pharaons ont réduit la marque sur un pénalty transformé par Mohamed Salah à la 73e. Ce mercredi, le Maroc tentera de recoller les morceaux contre le Portugal à mi-temps universel après sa défaite inattendue face à l'Iran. Les Portugais qui ont fait une grosse sensation en faisant jeu égal avec l'Espagne, surtout avec un Cristiano Ronaldo en état de grâce, 3 buts à lui seul. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Hervé Renard, en est bien conscient.
Si on en met 3 sur Ronaldo, je sais pas comment on va faire pour marquer les autres. Il y a tellement de qualité offensive. Faut pas oublier quand même qu'on a le champion d'Europe en face, donc si je me souviens bien, si j'ai de bons souvenirs, c'était blessé lors de la finale contre la France et ses coéquipiers ont réussi à faire la différence quand même. Donc bien sûr que c'est l'élément indispensable, là, certainement avec Lionel Messi, la plus grande star de cette compétition, mais On vient de dormir cette nuit, hein, et puis si ça nous arrive qu'une fois dans notre vie de jouer Cristiano Ronaldo, il faut être le meilleur possible.
Hervé Renard, sélectionneur des Lions de l'Atlas, à suivre aussi Uruguay-Arabie Saoudite pour la deuxième sortie du groupe A, et à 18h, l'Iran voudra sans doute limiter les dégâts devant l'Espagne. Voilà, c'est tout pour ce journal du Mondial.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les signaux forts de la CENI démontrent en suffisance qu'effectivement la date sera tenue. Donc je pense.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le Congrès doit se réunir à partir de ce mercredi en session extraordinaire sur convocation du président Joseph Kabila. Parmi les sujets à débattre, les statuts et la protection des anciens chefs d'État congolais. Mais ce qui retient surtout l'attention, c'est le discours à la nation que M. Kabila va prononcer à l'ouverture de la session. Edi Isango a joint à Kinshasa le constitutionnaliste Laurent Otchumbe.
Les signaux forts de la CENI démontrent en suffisance qu'effectivement la date sera tenue. Donc je pense que le président de la République vient appeler la nation à ce qu'elle se prépare au fait que ces élections aient effectivement lieu à cette date, de telle sorte que tous les groupes politiques et les groupes socio-culturels, je parle de la société civile bien entendu, se mobilisent parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne croient pas que la date que la CENI a annoncée pour les élections sera respectée. Donc je pense qu'en tant que le garant de la nation, il va tout simplement appeler la population à considérer qu'il est évident que les élections auront lieu à cette date.
De quoi sera fait cette session extraordinaire qui est convoquée au Parlement?
Nous avions tous suivi la lettre de convocation de cette session extraordinaire du Parlement. Il a été noté que le Parlement, c'est-à-dire le Congrès, va s'atteler pour l'examen de la loi relative au statut des anciens chefs de l'État en République démocratique du Congo. Ça, c'est la première thématique qui sera discutée par les deux chambres du Parlement, mais également le chef de l'État va s'adresser à la nation parce que vous savez que notre Constitution donne l'opportunité au chef de l'État de s'adresser à la nation une fois là, au travers les deux chambres réunies à Congrès.
Est-ce que la Constitution ne garantit pas déjà suffisamment les statuts d'anciens chefs d'État pour qu'on en ajoute autre chose?
De façon principale, la Constitution prévoit effectivement que tout ancien chef de l'État en République démocratique du Congo devient sénateur à vie. Mais les modalités pratiques, le Parlement doit logiquement donner un peu de détails sur la faisabilité. Parce que même la Constitution ne donne pas les modalités pratiques. Dans combien de jours le chef de l'État sera sénateur? Quelles sont les modalités pratiques de sa cooptation? Donc je crois que toutes ces questions-là, en détail, que les parlementaires doivent mettre dans une loi pour que la nation respecte.
Dans le passé, un sénateur avait proposé une loi comme ça qui n'est jamais passée au vote.
La question n'a jamais été débattue et rejetée. C'est la toute première fois, parce que le chef de l'État a le mandat de pouvoir convoquer une session extraordinaire, c'est la toute première opportunité qui est offerte aux deux chambres du Parlement de pouvoir discuter sur une loi que moi j'estime assez importante, surtout pour notre pays.
La Constitution de la République démocratique du Congo limite à deux les mandats du président de la République. Mais est-ce que c'est possible que celui-ci revienne après avoir laissé passer quelques mandats, un peu comme en France, on l'a vu avec Sarkozy?
Effectivement, c'est l'option qui a été levée par les constituants congolais. Tout ce qui est interdit chez nous, c'est pouvoir renfler consécutivement trois mandats. Alors, si un seul mandat passe et le président qui a fait deux mandats peut revenir, faire encore deux mandats, repartir et passer un mandat et revenir encore deux fois, il n'est pas interdit.
En fait, la formulation ne semble pas très claire là-dessus.
La lecture ministérielle de la Quitte 60 et sa suite démontre la suffisance que ce qui est interdit, c'est renflé de façon effectivement consécutive trois mandats.
C'était Laurent Otchumbe, avocat et constitutionnaliste, joint à Kinshasa.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump durcit sa politique de tolérance zéro à l'égard de l'immigration clandestine, politique qui a entraîné la séparation d'au moins 2000 enfants de leurs parents sans papier à la frontière avec le Mexique. Selon le correspondant de la Voix de l'Amérique au Sénat américain, Michael Bauman, le sujet défraie la chronique au Capitole où les avis sont partagés entre défenseurs des droits de l'homme et législateurs des deux partis politiques. Les détails avec Irénée Herman Ungbo.
Autrefois rare, séparer les mineurs sans papier de leurs parents et les maintenir dans des centres de détention près de la frontière devient une habitude. Déçus, angoissés et sans espoir, ils attendent ainsi d'être rapatriés loin de leurs parents. Dora Saavedra.
Ce n'est pas le Texas que je connais, l'Amérique dans laquelle j'ai grandi.
La plus récente manifestation de la détermination de l'administration Trump à détenir, juger et expulser les sans-papiers, puis corser les critères d'éligibilité aux demandeurs d'asile, a suscité de nombreuses réactions. Mais Trump ne recule pas.
Les États-Unis ne seront pas un camp de migrants, encore moins un centre d'accueil pour réfugiés. Non.
La Maison-Blanche insiste sur le fait qu'elle ne fait que combler une lacune dans l'application de la loi sur l'immigration, affirmant que les administrations précédentes ont accordé un traitement préférentiel aux immigrés sans papier ayant des enfants.
Word got out about this loophole.
Des rumeurs ont circulé à propos de cette lacune et les résultats étaient prévisibles. Le nombre d'étrangers qui sont entrés illégalement avec des enfants est passé de 14 000 à 75 000 en 4 ans seulement. Cela ne peut pas continuer. Nous ne pouvons pas et n'encourageons pas les gens à amener illégalement leurs enfants ou d'autres enfants dans le pays en leur accordant l'immunité.
Trump a maintes fois accusé les démocrates de cette paralysie vieille selon lui de plusieurs décennies. Les démocrates et un nombre croissant de républicains s'insurgent cependant contre sa logique de séparer des familles. Il s'agit d'une politique méchante et dangereuse, notamment pour les enfants, note le républicain Ben Sass.
Ce que nous faisons en tant que nation affecte énormément ces enfants et leurs parents, ce qui est totalement inutile alors qu'ils attendent leur audience d'asile.
Les sénateurs démocrates ont soumis un projet de loi interdisant la séparation des familles, sauf lorsque le bien-être de l'enfant est en danger. Dans le même temps, la Chambre des représentants doit se prononcer cette semaine sur deux propositions de loi républicaines visant à durcir le système d'immigration et renforcer la sécurité frontalière. Laquelle de ces propositions sera adoptée? La question reste encore posée.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Pour terminer, retour sur la Coupe du Monde. Le Sénégal était en fête hier après la victoire de son équipe nationale face à la Pologne en Coupe du Monde. Des scènes de liesse étaient visibles partout à Dakar et dans les régions de l'intérieur. Une victoire fêtée à l'unisson à la place de l'obélisque, comme nous le dit notre envoyé spécial Abdourahman Dia.
Des centaines de supporters qui explosent de joie sur une place de l'obélisque pleine à craquer. Youssou a quitté un quartier de la banlieue et a préféré regarder le match ici en public. Deux écrans géants pour le plaisir des fans.
Ça va très bien, ambiance totale.
Et pourtant, il y a quelques semaines, beaucoup n'avaient pas cru aux chances de l'équipe nationale sénégalaise et le sélectionneur Alioune Cissé était souvent l'objet de critiques. Youssou nous dit que tout cela, c'est du passé.
Ouais, c'est normal parce que bon, vous savez exactement ce que tu veux dire, mais stratégiquement, ce que tu veux dire, vous préparez discrètement pour poser un adversaire.
Et pour cet autre supporter, Falouba, une bonne participation du Sénégal à la Coupe du Monde peut être bénéfique pour la cohésion nationale.
Bon, oui, c'est bien parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de critiques envers le gouvernement et tout ceci. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de manifestations. Si le Sénégal continue sur la Coupe du Monde encore jusqu'aux demi-finales, après ça peut ramener un peu la tension.
Ça peut faire baisser la tension.
Oui, ça peut faire baisser la tension surtout.
Mais on est un pays pauvre. Quand vous voyez les gens rentrer tôt pour aller regarder le match, vous pensez que c'est une bonne chose?
Bon, mais comme c'est un problème de la nation, c'est la nation qui demande. Si c'était autre chose, si c'était politique ou bien, après les gens ne vont pas quitter le lieu de travail. Mais comme c'est pour le Sénégal, tout le monde va aller regarder.
Abdourahman Dia, Dakar, VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Coupe du Monde toujours, Russie 2018 aura été le mondial le plus onéreux de l'histoire. Environ 15 milliards de dollars ont été dépensés pour des stades géants, des nouveaux chemins de fer, des aéroports plus modernes, mais surtout une occasion pour le président russe Vladimir Poutine de se redorer le blason. Mais que peuvent en tirer les citoyens russes? Reportage d'Henry Ridgewell, repris ici par Gabi Dorsil.
Officiellement, la Russie a dépensé près de 3 milliards de dollars dans la construction ou l'amélioration de stades et au moins 8 milliards dans d'autres infrastructures. Mais le jeu en valait-il la chandelle? Écoutons le professeur Leonid Grigoriev du Centre d'analyse russe pour la gouvernance.
The discussion of the efficiency of the championship in Russia.
La discussion sur l'efficacité du championnat en Russie, comme au Brésil, est comme celle sur la valeur économique d'une robe de mariée. Elle est nécessaire, elle rend tout le monde heureux, mais la valeur économique exacte ne peut être définie par un rapport trimestriel. Cela doit se faire sur le long terme. Nous espérons devenir non seulement un pays de hockey, mais aussi un pays de football.
Le Brésil avait dépensé 11 milliards de dollars pour organiser le Mondial 2014. Quatre ans après, de nombreux fans qui y ont assisté ont du remords. C'est le cas de Márcio Pessoa, un fan du Brésil.
Si on compare le Brésil et la Russie, l'infrastructure est supérieure ici.
Moscou n'a jamais vu autant de touristes. Ils dépensent des milliards de roubles pendant la Coupe du Monde. Cependant, la Russie espère que cette compétition aura des retombées économiques positives sur le long terme. Pour l'instant, il s'agit de rehausser l'image du pays face au monde, à un moment où il est sous sanctions internationales à cause de l'annexion de la Crimée et du soutien à la guerre en Ukraine. Écoutons Dmitri Orechkin, un analyste politique.
Vladimir Poutine, par cette démonstration de force, prétend que malgré les sanctions, la Russie peut offrir au monde un bon mondial. Malgré les sanctions, nous poursuivrons la guerre en Syrie. Et cela plaît aux gens jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils en font les frais économiquement.
Les premières victimes seront les personnes d'âge moyen. Le jour de l'ouverture de la Coupe, le gouvernement a annoncé que l'âge de la retraite passera graduellement de 60 à 65 ans pour les hommes et de 55 à 63 ans pour les femmes. Pour Eva, 62 ans, la plupart des Russes encaissent, sans mot dire.
Ce n'était pas totalement inattendu. Peut-être qu'ils croyaient en atténuer l'effet avec l'euphorie du championnat. Ici, on blague en disant « Hier, il me manquait 4 ans pour la retraite. Aujourd'hui, c'est 9 ans. » Et on me dit qu'on ne peut pas retrouver sa jeunesse.
Moscou présente le Mondial 2018 en partie comme un cadeau à sa jeunesse. Des souvenirs inoubliables et des installations flambant neuves. Les années à venir diront si Russie 2018 était un succès réel pour le pays.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jonah Cummins. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.